Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Le PSVR 2 est-il perdu? Le 3 est-il atomisé? Dead Space Remake est-il meilleur que l'original? Les réponses à tout ça, tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode numéro 279, enregistré en février 2023 en compagnie de personnes d'une qualité stratosphérique, à savoir d'une part J.K. Loret. Comment vas-tu, J.K. ?
Bonjour, ça va très bien. Au début, j'ai cru que tu allais t'arrêter à personne. Je me suis dit, merde, il est tout seul en fait, en compagnie de personne. Et voilà, c'était pour faire une entrée en matière avec une blague un peu
absolument
un peu
incroyable. Tu montres ta qualité et la puissance de ton intellect dès le lancement. Voilà. J'aime beaucoup.
Je fais du podcast depuis 10 ans et ça s'entend pas du tout.
Mallory oui. Delicourt, peux-tu remonter un tout petit peu le niveau, s'il te plaît ? Fais une blague là tout de suite.
Le niveau ? Oh, y a des blagues. Je connais la blague du renard, mais je ne vais pas
moi
vous la faire.
Pas. Si, vas-y, maintenant tu dois.
Ah, alors je cite Antistar, mon collègue, qui est l'apôtre de cette blague. Mm-hmm. C'est un monsieur qui est dans sa ferme et qui constate qu'il y a une poule qui a disparu. Mm-hmm. Et il attend, il guette. Et puis un soir, il voit un renard qui arrive. Il s'arrête devant le renard et lui dit « C'est toi qui as mangé ma poule ?» Le renard, il lui dit non. Alors qu'en fait, c'était lui.
Donc aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses super intéressantes.
Attends, merde, qu'est-ce qui vient de se passer là ? Bon, excuse-moi Malomé, va falloir que tu nous expliques ça. Alors peut-être après l'enregistrement, hein. C'est pas grave surtout. Hein.
Mais, c'est Antistar, hein. c'est ça non blague.
Non, mais
il faut pas expliquer, c'est ça la qualité. Voilà, il faut pas expliquer, il faut assumer, exactement. Okay. Je pense que je vais m'en servir. Et je pense que, surtout, que les auditeurs qui contribuent financièrement à cette émission sont vraiment fiers de pouvoir avoir rendu possible cette séquence incroyable. On a des nouveaux patriotes, Anthony Lecourt, Benux Fox, Mansouille et Julien Monti. Bonjour et merci à vous tous d'avoir contribué, d'avoir initié votre abonnement au rendez-vous jeu. J'apprécie énormément votre soutien. On a aussi un nouveau producteur, JNC, qui est avec nous et qui produit cet épisode spécifiquement. Donc, c'est un petit peu lui qui a amené cette blague incroyable de Malo, ou plutôt d'Antistar, par l'intermédiaire de Malo. Je pense que ça valait bien le prix de sa contribution.
Antistar ne sera jamais invité dans le rendez-vous jeu, hein, je promets.
Ou le contraire, peut-être que tu vois, ouais. Tout à coup, là, il va devenir. Je vais le supplier de participer à l'émission.
Oui, après, c'est toi le chef de l'émission.
Je trouvais cette blague absolument très, très bien. Voilà,
Moi, je ne l'ai pas comprise. Enfin, bref, on en parlera plus tard.
Mais est-ce qu'il va vraiment falloir expliquer à J.K. qui n'a rien à comprendre ? Que c'est justement que c'est pas une blague, que c'est très drôle.
Ouais, ok, d'accord.
En fait, tu fais partie de cette génération dont on parlait tout à l'heure, qui a raté le tournant de la jeunesse, tu vois, dans les années 80.
Je suis la génération de grosse tête, moi, donc j'ai besoin de chute, j'ai besoin de Guy Montagnier, tu vois.
T'as encore besoin qu'une blague soit drôle.
J'ai entendu des choses bien pires dans d'autres podcasts où vous participez, monsieur Loret.
Il y avait du sens dans ce qu'on racontait, même si c'était bizarre, mais il y avait du sens.
C'est discutable. À propos de sens, je pense que dans l'after show, je vais parler un petit peu de y a-t-il un sens à l'achat d'une console next-gen aujourd'hui ? Parce que c'est une question qu'il est légitime de se poser. Est-ce que ça vaut le coup ou c'est intéressant ou il y a même un intérêt tout court à acheter une console next-gen ? On en parlera peut-être dans l'after show réservé aux auditeurs. Merci Mallory qui vient de s'abonner à Patreon. On a eu une petite notification sur le Twitch, puisqu'on est également en live sur Twitch. Merci à vous tous de nous suivre. Et Mallory, du coup, on a un nouveau patriote, Mallory Delicourt. Merci à toi. J'apprécie beaucoup ton soutien. Ouais, mais ces blagues, elles sont... Il se fournit chez Antistar, donc ça, tu vois, ça augmente le niveau largement.
Alors, pour faire la petite anecdote, il stream aussi, et si on a assez de points de chaîne sur sa chaîne, il peut raconter cette blague dans diverses langues, et on peut choisir la langue. Donc, je l'ai déjà entendu la raconter en coréen, en polonais.
Pas mal. Mais il fait sur Google Trad, il l'a traduit, et il est pas mal. Écoute.
Je ne sais pas comment il fait, il est trop fort.
On va aller, du coup, j'espère qu'il streamera à la fin de cette émission pour qu'on puisse aller le raider. Mais on va parler du coup de l'E3. Et vraiment, quand je disais l'E3, qu'est-ce que j'ai dit? Il est estropié, il est machin. Il y a vraiment des préoccupations sur l'E3. Mais avant ça, on parlait de blagues de qualité. JK, pour que tout le monde entende et que tu aies un maximum d'impact, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe samedi là?
Oui, alors peut-être vous n'êtes pas sans savoir ou pas que on fête les 10 ans de ZQSD, on les a fêtés même il y a quelques jours en janvier, et à cette occasion on fait une émission spéciale pour les 10 ans. Donc c'est samedi qui vient, donc le 6 février, non. Pardon, attendez, je suis nul. Le 4 février, c'est que ça commence bien. Le 4 février, on fait une émission spéciale. Et pour le coup, elle sera en direct sur Twitch. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait une émission en direct. Donc la chaîne Twitch de ZQSD, donc c'est ZQSDFR, le nom de la chaîne. Et on sera en direct aux alentours de 19h. On va faire une grosse émission pour les 10 ans. On va revenir un petit peu à la fois sur les 10 ans de l'émission de ZQSD. On va élire enfin, avec beaucoup de retard, le GOTY 2022, avec un quiz a priori préparé par Kevin, qui est avec Pardiz. Quelle incroyable. Je pense qu'il a même eu un budget pour ce quiz. Donc je sais pas pour comment
il a été.
Je sais pas. Il m'a dit qu'il avait dépensé de l'argent des Patriotes justement pour le quiz. J'ai très très peur du résultat. Donc voilà. Donc il y aura tout le monde. Il y aura les anciens aussi. Il y aura Goat et Savon Fou qui seront là. On sera dans la cave de l'apéro du Capitaine. Vraiment là où on a commencé, quoi. On s'était dit, voilà, c'est vraiment histoire de marquer le coup. Donc, faites un tour sur Twitch ZQSDFR à partir de 19h. Et, j'ajoute une dernière chose. On va avoir une petite rubrique messages des auditeurs et des auditrices. Donc si vous avez envie de nous laisser un petit message, il suffit en fait d'enregistrer un message avec votre téléphone et de nous l'envoyer à zqsd10ans@gmail.com, 10 ans en chiffres, et comme ça on pourra diffuser, ou pas d'ailleurs, ça va dépendre de la teneur du message, on pourra diffuser votre message pendant l'émission. Voilà.
Très bien. Super, bah écoute, on a hâte, un événement mémorable, et du coup, on va enchaîner immédiatement sur les infos à retenir, avec la première d'entre elles, qui concerne l'E3, avec des rumeurs plus ou moins confirmées, selon lesquelles Nintendo, Sony et Microsoft snobberaient l'E3 et n'y seraient pas présents. Alors, qu'on s'entende bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conférence dans la période de l'E3, mais par contre, ils ne seront pas présents sur le show floor, dans le salon, puisque, pour le cas où vous ne vous en souvenez pas, cette année est l'année du retour de l'E3 physique, qui est évidemment le cœur de l'événement. Mais sans la présence des trois gros constructeurs, et on sait que des développeurs étaient souvent absents également, on se demande si l'E3 peut survivre, puisque, enfin, ça fait des années qu'il est moribond, mais là, c'était censé être le retour. Le retour sans les principaux intéressés, je ne sais pas si c'est possible. JK, est-ce que tu crois que... Enfin, l'E3 sans Sony, sans Microsoft, sans Nintendo, sur le salon, c'est juste les conférences, et les conférences, c'est le Summer Game Fest, on peut mettre 3 dessus. Ouais. Mais ça ne veut rien dire.
C'est assez peu engageant, clairement. Et pour moi, il y a vraiment une espèce de flou sur cette période de l'année là, qui arrive en juin. Là. Puisque donc il y a cette E3 en physique. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais on sait déjà qu'il n'y aura aucun des trois gros constructeurs. Et il y a aussi un Summer Game Fest en physique qui avait été annoncé. Alors, je ne sais pas si c'est concret. Souvenez-vous, Geoff Keighley, l'année dernière, il a annoncé. Donc, on ne sait pas exactement quand. Donc, il y a vraiment un truc. On se demande où est-ce qu'on va devoir aller. Enfin, ceux qui seront sur place, en tout cas.
Après, oui, parce que nous, on reste chez nous en pyjama devant.
Oui, nous, on sera dans notre écran en train de regarder les streams. Après, le fait qu'il n'y ait pas Sony, en tout cas physiquement, ce n'est pas forcément une surprise parce que ça fait un petit moment, même déjà avant, ils étaient beaucoup moins présents, ils s'étaient vraiment détachés de l'E3. Nintendo, c'est pareil, bon, ça, ils s'étaient un peu éloignés de l'E3. Microsoft, c'est quand même nouveau parce que Microsoft, en général, justement, c'était un peu les rois puisqu'ils restaient quasiment plus qu'eux, en fait, en tout cas en termes de présence. Et traditionnellement, ils ont toujours plutôt des gros stands. Hein. Ils avaient un beau stand à la Paris Games Week cette année. Enfin, l'année dernière, ils avaient un beau stand à la Gamescom aussi.
C'est la crise.
Donc je sais pas. Après, est-ce que derrière en interne, en coulisses, il y a eu des négociations et que c'est l'ESA, je crois, qui organise le 3, a fait monter les factures pour le prix, parce que le prix des stands peut être très très élevé. Et que du coup, bah, les constructeurs se sont dit, bon, bah, on aura plutôt intérêt à organiser nos propres événements et faire du stream, ça suffira largement. Et puis, de toute façon, ça arrive toujours au débat sur l'intérêt des salons physiques, même si moi, je pense que c'est toujours intéressant. Mais aujourd'hui, pour toucher le grand public, un bon stream et mettre à dispo une démo d'un jeu sur le Xbox Live ou sur Steam, comme fait Steam hein, quand ils font le Steam Fest, c'est probablement tout aussi efficace, voire plus efficace, parce que là, tu vas toucher des millions de joueurs potentiels qui n'auront pas besoin de se rendre sur place pour tester, pour faire la queue pendant une demi-heure pour tester un jeu. C'est pas une décision qui me choque plus que ça, qui me surprend plus que ça. C'est sûr que c'est dommage pour la presse et les influenceurs qui auront décidé d'aller là-bas. Bon, bah déjà.
Mais tu sais, même pour ceux-là, je pense que ceux-là, ils ont droit à des présentations privées dans des chambres d'hôtel comme on les a depuis des années déjà.
Oui. Oui, bien sûr.
Eux, ils pourront avoir des hands-on de ce qu'on peut avoir en hands-on. Donc, c'est vraiment le délitement de. Tu mentionnais l'ESA, c'est eux qui sont vraiment victimes de cette situation, puisque l'ESA se finance en partie avec l'E3, donc ils ont besoin d'avoir des trucs chers qui leur font de l'argent, parce que ça finance leur activité le reste du temps. Alors que Jeff Keighley, s'il fait son Jeff Keighley live for real with real people, il s'en fout, lui, de faire payer très cher. Je suis sûr, ça lui fait de la pub plus que... Je suis sûr qu'il va se faire de l'argent. Mais il n'a pas besoin de financer tout le reste de son activité par ce biais. Donc, et puis, ça risque d'être une après-midi dans un garage avec trois personnes. Peut-être qu'il y aura... Je dis ça, mais je plaisante. Peut-être que ça sera quelques milliers de personnes. Alors que le 3, ils en attendent des dizaines de milliers minimum. Donc, bref.
Après, ce sera peut-être bénéfique pour la Gamescom, du coup, qui a lieu à deux mois plus tard, qui est quand même un gros événement européen, mine de rien, qui draine même beaucoup de monde, parce que beaucoup de public. L'année dernière, c'était le retour de la Gamescom en physique, j'y étais, et c'était un peu tristoun, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais...
Enfin, pas beaucoup de monde, c'est quoi, 150 000 personnes, un truc comme ça.
Oui, enfin, par rapport à un salon public, oui, il y avait quand même... par rapport à un salon public, c'était pas non plus la folie. Par rapport à un salon un peu plus pro, comme le 3, même si c'était plus vraiment le cas après, à la fin, c'est beaucoup, c'est sûr, mais on va voir, parce que... Moi, en fait, je me suis habitué à cette période depuis le Covid. Je me suis habitué à cette espèce de grand raout qu'il y a durant le mois de juin, le Summer Game Fest, avec plein de conférences et tout, même si c'est un peu l'indigestion à la fin. Mais j'aime bien, finalement, tu vois, savoir que pendant deux semaines, tous les soirs, tu vas avoir des conférences. Avec en point d'orgue, les annonces des grands constructeurs, qu'ils soient présents en physique ou pas, moi, à titre perso, ça change strictement rien, tu vois.
C'est sûr.
Donc, et je comprends pour eux, ils voient un intérêt très limité, quoi.
Ouais. Surtout que vraiment, si on boil down everything au final, le seul vrai intérêt important à avoir un E3 en physique, c'est pour l'ESA qu'il se finance. C'est juste ça. Il y a juste ça qui est vraiment... Après, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, j'aime bien aller voir les gens en physique. » Encore une fois, on pourra peut-être le faire et certainement le faire pour les journalistes. Mais le seul vrai intérêt important, c'est le financement de l'ESA. Et ça, bon, les gens qui ne sont pas l'ESA, ils s'en foutent. C'est une position un peu bizarre parce que c'est un... syndicat de constructeurs et de l'industrie, quoi, une trade organization. Donc, ils font tous partie de l'ESA, mais en même temps, ils s'en foutent un peu. Mais bref, bon. Voilà pour cette information. C'est un poil surprenant qu'aucun des trois gros constructeurs n'y prenne part, en particulier Microsoft. Mais on verra ce que ça donne dans quelques mois. À côté de ça, on a eu un petit... je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire de chiffres de production de prévision et de prévision de vente du PlayStation VR 2. Vous avez suivi un petit peu ça ou pas?
Oui, j'ai vu ça, que ça a été drastiquement réduit.
Alors, c'est GameIndustry.biz ou Bloomberg, je ne sais plus, qui était à l'origine... c'était peut-être Bloomberg qui était à l'origine de cette rumeur. Il semblerait que les précommandes du PSVR 2 soient décevantes et que du coup, ça ait amené Sony à réduire de moitié ses prévisions de vente. Souvenez-vous bien de l'idée que c'est les prévisions de vente, parce que c'est important. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu... Enfin, ça me désole forcément, parce que j'aimerais que le PSVR 2 se vende bien et qu'on ait un vrai marché de la VR qui se développe, parce que c'est un truc qui est intéressant au niveau gaming. Mais ça ne m'a pas non plus tellement surpris. Enfin, l'idée ne me surprendrait pas, parce que, comme j'en parle depuis un moment dans l'émission, et je pense que généralement, on est d'accord, même s'il y a des fanboys qui viennent m'agresser sur Twitter ensuite avec beaucoup de mauvaise foi. Je ne sais plus quand c'était la semaine dernière, je disais, ouais, Horizon, Call of the Mountain. Au milieu d'une phrase, j'ai dit, ouais, c'est qu'une démo. Enfin, c'est une démo, ce n'est pas non plus... Évidemment, je voulais dire, c'est un jeu démo technique qui est là pour présenter le truc. Évidemment que c'est un jeu qui va durer quelques heures. Ce n'est pas une démo au sens strict du terme. Mais il y a des gens que ça a irrité. Et enfin, pour moi, c'est clairement de la mauvaise foi, parce qu'on comprend bien ce que je veux dire, je crois. Et donc, là, on a un petit peu la confirmation de cette réception tiède du PSVR, qui est une bonne machine, mais trop chère, et avec un line-up qui n'est pas assez original, et pas assez, il n'y a pas assez d'exclusivité, c'est beaucoup de trucs portés. En gros, ce que je reproche au PSVR 2, c'est que c'est une bonne machine pour découvrir la VR si on veut découvrir la VR, mais ça ne va pas donner envie à des gens qui ne sont pas déjà intéressés ou qui pourraient déjà être intéressés. Et c'est ça que j'attendais, moi, du PSVR 2 et de cette génération de machines, c'était que ça étende le marché potentiel de la VR. Et là, entre le prix et le line-up, je crains que ça ne soit pas le cas. Bref, là, je résumais ce que je disais les semaines précédentes. D'après ces rumeurs-là, Sony aurait réduit les prévisions de vente. Suite à ça, Sony aurait communiqué avec Game Informer pour leur dire non, 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 Sony... Ah, pardon, pardon. J'ai bien dit les prévisions de vente, ils les ont réduites selon Bloomberg. Et à Game Informer, ils ont envoyé un message disant Sony n'a pas coupé les quantités de production du PSVR 2. Genre, en sous-entendant que c'était un démenti de l'enquête ou des sources de Bloomberg. Et donc, il y a des gens qui se sont dit « Ah ben non, en fait, donc du coup, Sony dément. » Mais en réalité, je ne sais pas s'ils démentent. Peut-être, mais je n'ai pas l'impression, parce que quand on parle de projection de vente, c'est les chiffres, tu te dis bah, « On va en vendre 2 millions, et c'était leur chiffre, 2 millions sur 2023, bah, finalement, on pense en vendre qu'un million. » La production, ça n'a, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est un autre chiffre. Si tu dis bah, « On avait prévu d'en fabriquer 1 million », et que en premier run de production, et que finalement tu dis bah, on va en vendre 1 million, on va pas réduire la quantité de production, on va les garder en stock et puis les écouler sur l'année. Mais c'est un autre chiffre. C'est comme si on dit Sony a décidé que son rond bleu finalement il serait rouge, et Sony sort en disant non, notre rond il est bien rond. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu pour troubler les eaux et qu'ils ont dit ce qu'ils pouvaient pour laisser penser à certains qu'ils démentaient sans vraiment démentir. Donc, je sais pas si c'est ce qu'il faut en retirer, mais si ils ont effectivement toujours des ambitions très positives sur le PSVR 2, moi je suis content, parce que, comme je disais, j'espère que ça va bien se vendre et que ça va établir un marché, mais je trouve que ça commence à puer un peu. Enfin, à puer. Ils espèrent en vendre 1 million sur 2023. C'est pas rien, évidemment. Mais c'est pas aussi ambitieux qu'on pouvait l'espérer, je crois.
Bah, ouais, juste pour rapport à ça, je pense qu'en fait, ils... Comment dire ? En fait, déjà, ils pâtissent de ce que tu as dit. En fait, c'est un casque qui coûte aussi cher, voire plus cher que la console. Contrairement, en fait, le premier PSVR, il avait cet avantage d'arriver au bon moment, parce que c'était une époque où les casques concurrents étaient encore très chers. Le PSVR 1 est arrivé, il était moins cher, à 400 €, je crois, ce qui était déjà un prix, ouais. Mais ce qui était à l'époque le casque le moins cher. Donc, il a séduit vraiment un public beaucoup plus large qui voulait découvrir la VR.
Et puis, il y avait beaucoup de gens qui voulaient découvrir à l'époque aussi, aujourd'hui.
Voilà. Et qui voulait découvrir. Et le problème aussi, c'est qu'il y a eu, l'effet, désolé de le dire, mais l'effet appareil raclette, quoi. C'est-à-dire que c'est le truc que t'achètes. Et pourtant, je suis, enfin, même si moi maintenant, mais je défends quand même beaucoup la VR. J'ai acheté un MetaQuest 2 il y a pas longtemps, je l'ai dit la dernière fois. Mais du coup, c'est quand même un truc que tu sors pas tout le temps. Et je pense que la plupart des gens, ils ont vu le PSVR 2. Ils se sont dit bon ok le truc coûte plus cher que la console, il n'est pas compatible avec mes jeux que j'ai déjà sur le PSVR et mon PSVR 1 est techniquement toujours compatible avec ma PS5, encore faut-il que les gens soient équipés en PS5, bon a priori c'est quand même plus le cas, mais surtout que la pénurie ça a commencé à arriver. Donc en fait tout ça fait que les prévisions de vente ne peuvent être que moins bonnes, c'est certain. Et aussi, a priori, il a l'air techniquement assez, très impressionnant. Il y a le eye tracking qui a l'air de super bien fonctionner. Les capteurs, enfin le contrôleur du type DualSense, ça a l'air super. Mais moi c'est marrant, tu vois, je sais plus à qui je parlais. J'ai dit à un pote la dernière fois, tiens, j'ai acheté un MetaQuest. Il me dit, mais t'as pas acheté un mais t'attends pas le PSVR 2? Je dis, bah non, enfin franchement, qu'est-ce que je vais mettre 600€ où je vais devoir acheter tous mes jeux, un truc avec un câble en plus. Enfin, tu vois, j'avais aucun intérêt à acheter un PSVR 2. Alors que typiquement, tu as un MetaQuest qui est moins cher, qui est compatible PC et qui est autonome, tu vois, et qui, par contre, qui techniquement est inférieur, certes, mais j'ai pas besoin d'une expérience hyper haut de gamme. Enfin, l'expérience que j'ai avec le MetaQuest 2 me suffit. Et pourtant, je fais partie des enthousiastes de la VR, tu vois. Donc c'est pas très étonnant que les prévisions de vote ne soient pas dingues, quoi.
Moi, je suis dans ton cas aussi. Enfin, s'il était à 400€, évidemment, à ce niveau de qualité, c'est difficile de le proposer,
oui,
à 400€,
ouais.
Je comprends. Mais le prix m'arrête. S'il était à 400€, je pense que je l'aurais acheté. À 600, je peux pas. Enfin, je peux pas.
Bah,
je peux pas.
Hein,
c'est pas que je peux pas. C'est 50, que j'ai pas envie.
50 ou 600. Oui, ouais. C'est délirant. Enfin, c'est pas raisonnable, quoi.
Ouais. On en causait. Moi, il m'intéressait jusqu'à ce qu'ils annoncent le prix, quoi.
C'est ça. Ouais, exactement.
Je suis passé à côté. La VR, je suis passé à côté longtemps, même si j'ai pu l'essayer plusieurs occasions sur les salons, divers événements. Mais je me suis dit, bon, bah, si c'est comme le premier PSVR, c'est relativement accessible, il y aura quelques trucs un peu sympas dessus.
C'est ce qu'on
espère. Là, j'ai la PS5, c'est ce que je vais faire. Je vais le prendre. Et là, j'ai vu 600€, j'ai dit, bah non, en fait.
600€ sans jeu.
Ouais, sans jeu. C'est 640 avec le pack avec Horizon. Et pour un truc que je pourrais n'utiliser que sur la PS5, je peux. Si encore j'avais pu me dire, bon, le casque, il y a un câble, donc éventuellement, ouais, avec une compatibilité, je vais pouvoir le brancher sur PC, même pas forcément tout faire, mais je sais pas, je pense à Half-Life, qui est le jeu VR.
Half-Life Alyx,
j'aurais pu envisager de les mettre en me disant, bon, bah, je m'en servirais sur les deux supports. Là, pour un accessoire comme ça, j'y vois pas plus d'intérêt que pour moi d'acheter la manette Edge, alors que je suis pas un pro gamer Call of.
On va y revenir, la manette Edge.
Tu vois,
ouais,
on voit pas,
bon,
l'intérêt pour l'instant.
L'idée, je voulais pas qu'on reparte sur du PSVR de bashing, mais force est de constater que, disons que l'idée que Sony finalement réduise ses projections de vente, même s'ils ne réduisent pas leur production, leur quantité de production, c'est pas si surprenant. Maintenant, peut-être qu'ils vont vraiment finir par démentir l'idée qu'ils ont réduit leur projection de vente.
Ouais,
c'est pas surprenant s'ils l'ont fait.
La production, elle est lancée là, donc ils peuvent pas revenir en arrière. Enfin, je veux dire, ils sortent. Ouais, enfin, oui, bah, là, je veux dire, ils ont signé des contrats avec les usines, hein, donc ils peuvent pas dire au dernier moment. Oui, j'imagine, mais bon, ils sortent quand? Ils sortent ce mois-ci, non? C'est ça?
Ouais, ils sortent dans trois semaines.
Le 22, voilà, je crois. Le 22.
Donc ils peuvent pas au dernier moment réduire la production par deux non plus, tu vois.
Non, c'est sûr.
Ils sont tellement battus pour sécuriser des stocks de composants qu'une fois qu'ils les ont, ils vont produire.
Ouais,
c'est vrai. Et puis ça va se vendre. Je veux dire, s'ils ont prévu de fabriquer 1 million sur l'année, ils vont vendre 1 million sur l'année, j'espère quand même. Mais bon. Pour rappel, le PSVR 1 s'était vendu à 5 millions sur sa vie, ce qui était quoi, 3 ans, on va dire, de grosse activité. Donc, on verra. On me pose la question, le PSVR 1 est compatible PS5? Si on a un câble spécifique qui avait été envoyé par Sony au moment de la sortie de la PS5, mais ça reste, enfin, je le conseillerais à personne, si vous ne l'avez pas déjà, je conseillerais à personne d'acheter un PSVR 1 aujourd'hui. C'est vraiment une tannée parce qu'il y a un boîtier externe, il y a plein de câbles. Même avec la version un peu améliorée, ça reste pénible, quoi. Bref, ça c'était pour le PSVR 2. Les chiffres très rapidement de Sony nous disent, alors il y a plein de chiffres sur Sony en général, mais on s'en fout un peu, la PS5 elle-même s'est vendue à 7,1 millions d'unités ce trimestre contre 4 millions l'année dernière. Alors c'est toujours compliqué de comparer ces chiffres parce qu'il y a les problèmes de pénurie, mais il y a un autre chiffre qui est intéressant qui a été proposé par Oscar Lemaire, le fameux, le spécialiste, qui est de suivre les ventes de la PS5 par rapport à la PS4. Et sur la première année, on va dire, ils étaient à peu près dans un mouchoir de poche. Ça a baissé ensuite sur les trimestres précédents. Encore une fois, pénurie, inflation, etc. Aujourd'hui, on est à 32 millions de PS5 dans la nature. À la même époque, au même, à la même durée de disponibilité, on était à 37 millions pour la PS4 après 9 trimestres. Donc 32 millions, c'est pas mal, on est 5 millions derrière, mais on est quand même au-dessus de la PS2 et de la PS3. Donc ça reste quand même une console qui se vend bien malgré les pénuries et tout ça. Souvenons-nous que la PS2 à l'époque était, avait fini par être la console la plus vendue de l'histoire, si je ne m'abuse. Ou peut-être qu'il y avait une console Nintendo au-dessus, mais genre c'est l'une des deux plus vendues. Donc la PS5 se porte encore très très bien, même si elle est un peu en dessous de la PS4. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu cette... Non, puisqu'on parle matériel, je ne veux pas faire du PlayStation bashing, mais vous avez vu la taille de la batterie de la DualSense Edge, comparée à la DualSense normale?
Alors, je t'avoue, je n'ai pas regardé les chiffres exacts, mais je sais qu'il y a un problème. C'est pas ce que j'ai compris.
Alors, la batterie, en fait, elle dure moins longtemps, mais pas beaucoup moins longtemps, ce qui veut dire qu'ils ont quand même réussi techniquement à l'améliorer. Mais la batterie, c'est une batterie de 1000 mAh sur la DualSense Edge contre une batterie de 1500 sur la DualSense normale. C'est-à-dire qu'elle n'a que 2/3 de la batterie. Elle fait presque autant en durée de vie, malgré cette batterie réduite d'un tiers, mais il n'empêche. Enfin, j'étais vraiment surpris. Moi, j'aurais pensé qu'elle avait au moins la même taille. C'est la même forme. Alors, il y a plus de trucs à l'intérieur, clairement. Mais ouais. J'étais vraiment... Enfin, bon.
Surtout que, à la base, la batterie de la première DualSense, enfin, la classique, elle n'est pas non plus incroyable, la batterie.
Donc, c'est infâme. Comme les batteries PS4, ouais. Ça dure 6 heures, 7 heures, ça dépend de ce à quoi tu joues, mais...
Ouais, c'est étonnant cette DualSense Edge. La réception est très très mitigée. Je connais des confrères, enfin des confrères, des anciens confrères qui l'adorent vraiment, et d'autres qui ont trouvé ça, qui l'ont trouvé vraiment vraiment pas terrible quoi. Donc il y a vraiment une réception qui est assez mitigée quoi.
Je crois qu'il y a un petit, je trouve que et encore une fois, moi j'ai aucune allégeance. Je suis ni fan de Nintendo, ni de Sony, ni de Microsoft. Ça m'amuse d'en parler. J'essaye d'en parler avec sérieux. Mais je dis jamais les choses que je dis parce que je bâche telle ou telle console ou tel constructeur, c'est évident, j'espère que vous le comprenez. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte, on est dans le monde à un niveau où la PlayStation est hyper populaire encore, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit changement d'ambiance avec, tu sais, c'est le début d'un potentiel inversement de la tendance parce que entre les prix de la console qui a été montée, et je suis sûr que tous vont finir par y arriver si ça continue dans ce sens, mais le prix de la console a été augmenté, le prix du PSVR 2 est beaucoup plus élevé qu'on ne le pensait, le problème du DualSense Edge, alors c'est peut-être sa qualité de finition avec le plastique, tout ça, mais c'est aussi surtout son prix qui est hallucinant par rapport à la concurrence directe qui est celle de la Xbox Elite. Et du coup, je me demande si ça n'a pas un effet subtil, mais réel, sur la perception qu'ont les joueurs de la marque. C'est un petit peu genre... enfin, les marques ne sont jamais nos amis, mais tu peux penser qu'une marque est cool et tu peux penser qu'elle se fout un peu de ta gueule. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même... bon, ils abusent, quoi. Ils poussent trop. Et ça peut avoir une influence sur leur image, je crois.
Bah ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'en ce moment on est dans une période où ils sont moins shiny, tu vois. C'est plus PlayStation, c'est la marque. Enfin voilà, c'est la meilleure console, c'est machin, irréprochable, les vraies exclusivités, etc. Alors certes, il y a des exclusivités plus que chez Microsoft, mais je comprends. Tu vois, Microsoft à côté, même si le rachat d'Activision Blizzard, ça touche, enfin, il y a un public très restreint qui s'intéresse au truc, tu vois. Sony passe presque un peu pour le méchant dans l'histoire, tu vois, alors que on sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il y a vraiment tout plein de petits facteurs qui font que oui, en ce moment, Sony, c'est pas forcément leur meilleure période, en tout cas en termes d'image de marque.
C'est ça.
Alors que Microsoft, voilà, ils ont un Game Pass qui est quand même hyper solide, même s'il y a un manque d'exclusivité. Ils font des efforts sur le prix de leur console.
Ouais, ils ont leurs problèmes aussi, Microsoft. Prix, voilà.
Oui, évidemment. Mais juste en termes de com, tu vois, c'est pas forcément parfait en ce moment, quoi.
Ouais. Je trouve que Sony est un peu... Bon, après, ça reste encore anecdotique. Hein. Ils peuvent tout à fait redresser la
barre. Oui, puis c'est des périodes. Hein. Enfin, voilà, il suffit qu'au prochain E3, ils annoncent un nouveau jeu Naughty Dog et deux, trois trucs sympas. Ça y est, ça va... Et puis voilà, tu vois, typiquement, la série The Last of Us, je suis pas sûr que PlayStation en profite vraiment. Enfin, c'est pas une série PlayStation, tu vois.
Mais si, non, mais carrément.
Enfin, si. Mais je veux dire, quand
t'as pas vu que les ventes des jeux ont explosé sur Amazon.
Les ventes de jeux ont explosé, je suis d'accord.
Non, et puis...
Mais je veux dire, juste le public qui regarde The Last of Us, ça va pas se dire, oh là là, PlayStation, ils sont super forts. Enfin, pour moi, c'est quand même deux choses très différentes. Quoi.
Oui, le brand building de PlayStation n'est pas lié à ça, mais et puis c'est uniquement chez les fans comme nous que ça joue oui. ce genre de choses. Mais...
Voilà.
Bon, bref, petite pensée comme ça. Et il y avait un autre truc justement à propos d'exclus, parce que oui, évidemment, quand ils vont commencer à présenter les exclus à l'E3, c'est pas que ça rend la console moins cool ou les jeux moins intéressants, hein, c'est juste l'image de marque de la marque. Il y a, je sais pas si vous avez vu cette promo pour les jeux Sony. C'est une pub, hein, enfin une pub toute bête. Et il y a genre les jeux Sony qui envahissent la réalité. Et un reportage genre « Ah, on a trouvé Aloy dans les rues, on a vu Kratos dans la neige, machin. » Et il y a un moment, un truc qui ressemble quand même vachement à Uncharted, avec une héroïne plutôt que Nathan Drake. Et c'est une héroïne qui pourrait être quelqu'un dans l'histoire de... je vais pas spoiler. Tu vois,
tu peux depuis le temps, c'est bon.
Ouais, je pense que ça va. Donc, il pourrait être la fille de Nathan Drake qui prend la relève. Et du coup, il spoil un petit peu peut-être, ou il préannonce Uncharted, Drake's Legacy ou un truc du genre, avec ce personnage. Bref, c'est juste un petit truc.
Compliqué cette histoire, parce que je crois que derrière, il y a eu un démenti de Naughty Dog. Enfin, disons qu'il y a eu un Naughty Dog qui avait précisé qu'ils en avaient terminé avec Uncharted. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, que Sony ne peut pas confier un Uncharted à un autre studio. Mais ce dont j'ai quand même beaucoup de mal à croire, que Sony serait prêt à filer Uncharted à un autre studio que Naughty Dog.
C'est tellement lié. Uncharted
est tellement lié à Naughty Dog que c'est quand même risqué. Enfin, risqué. Après, ils peuvent filer ça à Guerrilla, par exemple, typiquement, qui ferait son super taf, quoi. Mais je sais pas. Je suis un peu mitigé sur cette histoire.
Moi, je pense qu'ils vont complètement le filer à quelqu'un d'autre. Un studio qui va faire, on l'espère, un bon boulot. Ils vont appeler ça, tu sais. Enfin, Uncharted Gaiden, ou il appelle Charted, tu vois, c'est plus la même
oui,
chose.
Spin-off, quoi. Une sorte de spin-off, ouais, c'est ça.
Et voilà, et il n'y a aucun souci. Moi, je suis convaincu qu'ils vont le faire. Et j'espère qu'ils le feront bien et que ça ne sera pas juste on copie, comme on a vu mille fois des jeux. Enfin, je ne sais pas, celui qui me vient à l'esprit, c'est Arkham Origins et Arkham Knights. Gotham Knights, qui était vraiment hyper décevant. Et j'espère qu'ils feront un truc, genre qu'ils mettront leurs pattes sur le truc, et bref. Mais donc, ils ont peut-être préannoncé Uncharted, c'est quoi, 5
Bah oui, enfin, si on enlève Lost Legacy, non, parce qu'il y a eu Lost Legacy qui est un épisode à part, mais bon, on va dire que oui, ce serait le 5, techniquement. Quoi.
Techniquement. Et puis enfin, quelques mots. Si vous êtes abonné PlayStation Plus et que vous avez une PS5, n'oubliez pas d'aller ajouter les jeux PlayStation Collection à votre bibliothèque, parce qu'à partir du 9 mai, ils ne seront plus disponibles gratuitement. Vous vous souvenez, c'est cette collection de jeux offerts aux abonnés PS Plus qui avaient une PS5. Donc, allez les ajouter. Et puis, les jeux de février pour le PS Plus, il y a Holy Holy World qui est inclus dedans. Donc, ça, c'est peut-être un jeu à tester. Si vous ne l'avez pas encore testé, ça sera mon cas. Du côté de Microsoft, on parlait d'augmentation de prix. Microsoft a augmenté le prix de ses Xbox au Japon.
Voilà.
Uniquement au Japon. Mais ça risque d'arriver aussi. Hein. Alors, ça n'augmente pas beaucoup, mais ça augmente quand même. Donc, entre ça et le fait que les jeux commencent à passer à 80 euros, tout ça, je crois qu'on va y arriver.
Ils devaient estimer qu'ils en vendaient trop au Japon, du coup, ils ont décidé de faire
ça. On dit le succès est retentissant.
Voilà, bolo. Historiquement, je veux dire, c'est pas possible qu'on vende autant de consoles au Japon. Microsoft, ils se sont dit ça, et c'est pas normal, donc hop, on augmente le prix. Quoi.
Clairement. Mais c'est vrai en plus qu'ils en vendent beaucoup pour le Japon. On est à combien 400 000 exemplaires vendus au Japon. Et bon, par comparaison, la PS5, elle s'est vendue à 2,5 millions d'exemplaires.
Pour le coup, je pense que c'est la Xbox qui s'est le plus vendue, enfin qui se vend le mieux au Japon de toutes les séries de Xbox.
Ah, parce que moi, j'ai des souvenirs de semaines à 30 Xbox vendues dans tout le Japon.
Ouais, bah pour donner, c'est Jarod qui nous fait qui nous donne les chiffres. La console, la Xbox One avait atteint 115 000 exemplaires en tout. Sur toute sa vie. Donc, tu vois, là,
la Ouya, c'est
vendu
mieux.
À 400 000. C'est pas mal. La Ouya.
Même les Suisses, ils en ont plus acheté, je suis sûr.
Certainement. Et l'autre news Microsoft, c'est cette histoire avec 343, dont on ne sait pas s'ils vont continuer à faire des jeux Halo ou pas. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles ils étaient passés à une supervision des jeux Halo, mais que d'autres studios allaient les superviser. Puis on a entendu que non, finalement, ils continuent à bien faire les Halo, mais ils vont passer à l'Unreal Engine. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui changent chez 343, et c'est pas surprenant, comme on me disait les fois précédentes, vu les fours qu'ont fait les fours qu'ont fait les derniers Halo, ou en tout cas les déceptions qu'ont été les derniers Halo sur certains points. Mais bon, voilà, donc ça continue à poser des questions sur le leadership des studios de Microsoft. Et je crois que c'est tout pour les news. Il est temps de parler de jeux. Est-ce que vous êtes prêts pour vous faire démembrer?
Oui. J'espère. Il y a des bons jeux, hein. Il y a du bon jeu.
Il y a de quoi faire, mais avant, on va quand même parler une seconde de Patreon, patreon.com/rdvjeux, pour soutenir l'émission, pour nous permettre de continuer à dire du bien et du mal, ou de constater des choses très objectivement, sans aucun biais d'aucune nature, ou en tout cas, on essaye. Eh bien, vous pouvez nous encourager et nous soutenir sur Patreon, patreon.com/rdvjeux. C'est très simple, vous allez sur Patreon, vous choisissez un niveau de soutien qui peut aller de un petit euro à plus d'euros si vous le souhaitez, et à la fin de chaque mois, vous êtes débité de cette somme, et ça vous donne accès à des bonus incroyables comme des émissions sans pub, par exemple, sans même ce petit laïus au milieu. Vous avez des contenus bonus comme l'after show qu'on fera tout à l'heure. Vous avez le plaisir, la joie, le bonheur d'être un patriote, et ça... Ça n'a pas de prix. Enfin, si, ça a un prix qui est modeste. Si vous pouvez vous le permettre, allez voir sur patreon.com/rdvjeux. Je vous en remercie très chaleureusement. Quand vous arrivez chez vous, cling, les clés dans le bol, et là, ça fait « Oh, Patrick !» Ou alors, vous versez le café, et là, ça fait « Glou, glou !»« Oh, Patrick !» Vous avez deux occasions de vous souvenir que vous devriez aller sur patreon.com/rdvjeux. Je vous fais des bisous. Alors, il y a des gens dans la chatroom qui disent « Mais je l'aime trop, ton Laïus !» Je vous rassure, si vous êtes abonné au Patreon, mais que vous voulez quand même entendre le Laïus, vous pouvez continuer à suivre l'émission sur le flux public. Le flux privé a la version sans Laïus du milieu, mais le flux public l'a toujours. Donc ouf, vous voilà rassuré.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On peut parler de nos jeux du moment. Et c'est avec ce ton tout à fait adapté qu'on va commencer à parler du jeu. Est-ce que c'est le jeu le plus effrayant de ce début d'année ? On va dire ça comme ça.
Dead Space. Depuis le début d'année,
c'est pas difficile. Oui,
en temps, il est un peu seul, donc oui.
J'allais dire de tous les temps, mais c'était trop ambitieux, ça. Vous y avez joué tous les deux, du coup. Moi, j'ai eu trop peur. j'ai eu trop peur. Peut-être qu'on va commencer par Mallory. Dead Space Remake, j'ai l'impression d'entendre partout que c'est, je vais pas dire incroyable, mais carrément super, super bien. Est-ce que tu comprends?
C'est un remake qui est très réussi pour plein de raisons. Et qui, je me faisais la réflexion, si tous les remakes étaient faits comme ça, et ils avaient celui de Resident Evil 2 en tête quand ils l'ont fait, chez Motive, il n'y aurait plus de débat sur la pertinence des remakes.
Ah oui.
C'est-à-dire que, on est sur quelque chose qui trahit jamais le jeu de base. Hein. Toute l'histoire est quasiment la même. À peu de choses près, on retrouve des espaces entiers qu'on connaît, on retrouve des séquences entières, notamment la centrifugeuse, qui est un passage assez horrible. Et toute l'intrigue, les personnages, les armes, les monstres et tout ça. Et ils ont ajouté, je trouve, de façon très intelligente, toutes les nouveautés qu'ils ont voulu intégrer. Donc, alors, au-delà de la refonte graphique, qui est assez impressionnante avec le moteur, qui doit être le Frostbite, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont rajouté, par exemple, sur les nécromorphes, les monstres-là, une dégradation corporelle, c'est-à-dire quand on tire, au lieu de passer simplement de l'état entier à l'état dessoudé, il y a des bouts de chair qui s'en vont, ils s'abîment. Ça, c'est des petits détails. Et là où, pour moi, la réussite, elle est totale, c'est pas la refonte technique, c'est toute la façon dont ils ont intégré les nouvelles séquences, les modifications de séquences, les nouveaux espaces. Comment ils ont rassemblé tous les niveaux, enfin tous les couloirs du vaisseau qui étaient avant séparés par des points de chargement, on monte dans le tramway, il y a un chargement, on arrive dans une nouvelle zone. Ces tramways sont toujours là, mais en fait, c'est juste des façons de voyager rapidement. Tout est d'un seul bloc maintenant. Donc on peut partir d'un bout du vaisseau et tout retraverser si on veut. Il y a plein de petits ajouts, des coffres, des salles en plus, des séquences cinématiques.
C'est pas strictement la même progression, les mêmes niveaux, la même architecture. Il y a des trucs qui changent un petit peu ou c'est vraiment anecdotique?
Ouais, en fait, c'est plein de trucs qui sont ajoutés à la marge. C'est-à-dire que ça va être le même couloir, sauf que dans ce couloir, il va y avoir des portes en plus. Avec des zones qui sont accessibles, avec des cartes d'identification qu'on peut ouvrir ou qu'on ne peut pas à des moments. Des couloirs rajoutés. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Certains personnages qui avant, notamment Isaac qui parlait pas, maintenant il a des dialogues, donc ces dialogues impliquent de retravailler les PNJ avec qui il échange, parce qu'avant les dialogues étaient faits pour que le personnage n'ait pas à répondre. C'était des ordres, c'était des consignes, c'était des injonctions. Là, il y a des discussions, il y a des ajouts, il y a même une fin secrète. Si on débloque le New Game Plus et qu'on refait le jeu, il y a un moyen d'avoir une autre fin.
Donc c'est vraiment un remake, c'est pas enfin on n'est pas du tout dans le cadre d'un remaster 4K non, machin.
C'est comme un vrai remake avec, très fidèle.
Resident Evil 2, on va plus loin que ça quoi.
Voilà, on n'est pas dans la relecture comme peut l'être Final Fantasy VII Remake, qui reprend le truc de base et qui dit on va faire complètement autre chose tout en gardant certains marqueurs. Là c'est Dead Space comme il était quand il est sorti en 2008 et ils ont de façon vraiment très très intelligente intégrer tout un tas de nouvelles choses au long de la progression, ce qui fait que le remake a effacé alors c'est un peu exagéré mais c'est une façon de faire passer l'idée, a effacé mes souvenirs de l'original. C'est-à-dire qu'il y avait des séquences quand je les faisais je me suis dit c'était pas dans l'original ça, et c'était assez, et je me à plein de moments comme ça j'ai eu cette impression de est-ce que c'était dans le jeu que j'ai fait ou c'est un ajout ça, en fait c'était souvent des ajouts et c'est tellement bien fait que j'ai eu l'impression que c'était déjà là, c'est hyper naturel et ça c'est une grosse réussite.
J'ai l'impression que c'est la manière dont tu le décris, ça pourrait être un jeu qui est sorti aujourd'hui et ça serait un super jeu de 2023 où on n'est pas à ce point là. Est-ce que tu sens des choix de design qui datent un petit peu, parce qu'il a quoi? Il a 10 ans, Dead Space
plus que ça, il va avoir...
Ça, 15 ans.
Il est sorti, 2008. Donc,
ah oui. Oui, c'est 15 ans.
14
c'est 15
ans. Ouais, quasiment 15 ans. Alors, il y a des petits trucs, des petits trucs qui montrent un peu que ça a un petit peu vieilli. Il y a ce personnage qui est toujours un peu lourd, même si c'est pas un soldat, que c'est justifié par le fait que ce soit pas un soldat, mais un ingénieur. Il y a cette lourdeur dans le déplacement, il y a quand même une forme de linéarité qui est traite son époque, mais il jure pas du tout avec les productions d'aujourd'hui. Et le mettre en face de Callisto Protocol qui est sorti il y a 3 mois.
C'était ma question.
Un mois et demi.
La comparaison fait mal.
La comparaison fait un peu mal, ouais, parce que ouais. Le jeu récent conçu sur Unreal par le créateur de la licence qui fait moins bien que le remake de la même licence, ça fait un peu, ouais. Ça fait un peu mal, quoi.
JK, tu y as joué aussi.
Je l'ai pas fini encore, mais j'ai bien avancé. Et c'est vraiment une très très bonne surprise parce que. En fait, moi, j'avais pas. J'aimais vraiment beaucoup l'original, mais j'avais pas un affect monstrueux, tu vois, en me disant. Et en plus, j'avais rejoué il y a pas si longtemps, il y a quelques temps. J'ai plus de 2-3 ans, et je trouvais que ça tenait encore la route, tu vois, même techniquement, tu vois. C'est un jeu qui était super propre à l'époque, qui aujourd'hui, tu le lances. Évidemment, si le remake n'existait pas, ce serait encore OK, tu vois, parce que c'est un jeu
Xbox 360. Il y a 15 ans, on était sur quoi, le début de la PS3.
Xbox 360, donc PS3.
Un beau jeu de l'époque peut encore tenir la route aujourd'hui. On était à un niveau où ça va, quoi.
Et des remakes de jeux de cette génération, il n'y en a pas eu tant que ça, tu vois. Il y a eu The Last of Us Part 1, mais c'est encore assez rare. On est plus sur des remakes de jeux PS2, enfin, de génération PS2, GameCube, etc.
Ouais, puis Last of Us, c'est 5 ans après Dead Space. Il y a eu...
Voilà, ouais, c'est ouais, ça, en plus. Et puis, il y a eu plein de remasters de The Last of Us. Et là, en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point le jeu était cinématographique, bien mis en scène et incroyablement bien rythmé. C'est-à-dire qu'il y a une variété dans les scènes, dans la progression. Effectivement, le fait que ce soit une sorte maintenant de plan séquence à la God of War, pour le coup, parce que donc il y a plus de temps de chargement, donc tout se fait de manière très fluide. Il y a vraiment un sentiment de progression hyper naturel, toujours rythmé, parfaitement bien rythmé, avec des scènes choc, avec un travail sur le sound design qui était déjà excellent dans l'original. Hein. Là, vraiment, le travail sur le sound design, c'est d'ailleurs de là que vient essentiellement les effets horrifiques, plus que visuellement, c'est évidemment c'est moi c'est pas un jeu qui me fout une trouille d'enfer, c'est plus un jeu qui me où t'es constamment en tension, quoi, parce que voilà, t'avances forcément avec le flingue levé et voilà, mais par exemple les monstres, effectivement les détails sur les peaux des monstres, etc., qui se délitent, ça rajoute vraiment le côté cinématographique que tu pouvais avoir, hein, avec un bon film d'horreur avec des monstres, The Thing, etc. Et ça, vraiment, moi, je trouve que c'est bluffant, parce que c'est vraiment typiquement le genre de jeu où t'as vraiment du mal à savoir quand poser la manette, parce que t'as toujours envie de continuer. C'est tellement fluide. Non, mais c'est tellement bien rythmé et fluide, tu vois, que tu pourrais le faire d'une traite quasiment. Tu t'en rendrais pas compte et tu t'ennuierais pas. Et ça, bon, pour le coup, c'est le jeu de 2008 qui était comme ça. Et là, effectivement, les petits rajouts qu'ils ont fait, tu dis, Malo, que Isaac est encore un peu lourd. C'est vrai, mais il est quand même moins qu'avant. Je pense qu'ils ont vraiment accéléré ils ont accéléré un petit peu son pas. Ils ont même la façon dont il fait des pas de côté et tout. C'est quand même, disons que les combats sont quand même beaucoup plus agréables et fluides que dans l'original.
Et puis l'ajout des séquences en zéro gravité qui n'étaient pas dans le jeu de base, ça permet de respirer sur certaines séquences.
Exactement.
Qui étaient assez pénibles avant.
Voilà, les séquences en 0G, notamment les quelques séquences où tu sors de la station pour être dans l'espace, c'est vraiment des moments d'émerveillement, de stupéfaction qui sont toujours très présents, avec en plus une refonte graphique qui est vraiment hyper, hyper, hyper convaincante, quoi. Et c'est vrai, quand tu revois des images, alors que, effectivement, comme je le disais au début, j'avais l'impression que Dead Space 1 était encore un jeu très beau. Quand tu revois après les images de Dead Space 1, tu dis, ah ouais, la vache, ils ont quand même vraiment taffé, quoi. Donc ouais, non, très très bonne surprise. Vraiment, je suis dedans. J'ai vraiment envie de le terminer vraiment rapidement, quoi. Enfin, rapidement, je suis vraiment à fond dessus. Et Malo l'a très bien dit, ça efface vraiment tes souvenirs du jeu original. C'est un jeu qui sortirait aujourd'hui et qui serait tout à fait OK, quoi.
Je suis en train de regarder le trailer de non, là, c'est des images mochifiées, c'est pas possible. Le trailer de l'original, bon, effectivement, on sent que c'est... bon, il est de son époque, quoi.
Tu vas sur YouTube, il y a plein de comparaisons graphiques, donc c'est assez facile de s'en rendre compte. Et tu dis que le boulot est vraiment... Et effectivement, c'est fou de... Tu vois, Callisto Protocol, il y a quelques mois, on disait, bon, c'est sympa et tout ça. Mais en fait, on se rend compte que Ce qui fait la puissance d'un jeu comme ça, c'est son sens du rythme, ce que n'a pas, je trouve, Callisto Protocol.
C'est marrant que le même créateur, finalement, n'ait pas réussi à faire quelque chose d'aussi... Parce que, bon, Callisto Protocol, ça avait l'air sympa, mais voilà, il n'a vraiment pas réussi à recapturer le truc. On se rend compte à quel point c'est la confection d'un jeu vidéo... c'est un truc où toute l'équipe compte, quoi. Évidemment que le créateur a une importance massive, mais quant à l'équipe d'un gros développeur qui a les billets à aligner derrière comme EA, bah oui, ça peut te permettre de réaliser tes ambitions. Et à tous les niveaux, c'est pas que t'as suffisamment de bons graphistes pour faire des beaux graphismes, c'est pas que ça. Mais le fait, par exemple, de bien comprendre et établir le rythme dans le gameplay, dans la progression d'un jeu, bah, il faut quelqu'un qui a vraiment l'habitude de ce genre de truc, qui les gère bien, et il y avait certainement avec, dans l'équipe des gens qui sont habitués du... Enfin, je veux pas dire du mal de l'équipe de Callisto Protocol, mais il y a une question de comment dire, de financement là-dedans aussi, j'imagine, ou enfin, en tout cas d'équipe, de compétences.
Et aussi de conditions de développement. Alors, je connais pas comment s'est passé le développement de Dead Space, mais Callisto Protocol, le développement a été compliqué, apparemment. Il y a eu des tensions en interne, ça n'a pas été simple. Et puis, il y a aussi Callisto Protocol a un vrai problème de gestion de la difficulté. Il y a des vrais pics de difficultés qui sont abjectes dans Callisto Protocol. Une manière incohérente qui peuvent arriver très vite, tu vois. Alors que Dead Space, c'est beaucoup mieux équilibré là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments difficiles, mais c'est jamais insurmontable. Il y a vraiment un truc qui... Il n'y a pas ce côté décourageant et frustrant que peut avoir Callisto Protocol.
Ça peut être un truc où tu passes suffisamment de temps en QA avec suffisamment de tests et tu te rends compte que... Ah oui, bien sûr. J'imagine peut-être que ça peut jouer. C'est marrant aussi parce que... Et puis on va... Pardon, juste avant de te laisser la parole et puis on va conclure sur Dead Space, mais c'est marrant aussi parce que vraiment, l'image d'EA et la réputation d'EA, je crois qu'on s'attendait à un cash grab rapide et qu'il n'y ait pas respect de la licence de ce niveau de la part d'une boîte comme EA qui ressuscite une licence voilà, sur laquelle ils disent qu'il y a encore une bonne image et sur laquelle on aurait pu imaginer qu'ils disaient on va faire de l'argent rapide, on va sortir ça, ça va nous faire quelques millions. Et en fait, non. C'est vraiment un truc qui a été fait avec amour et respect, quoi. Surprenant.
Bah c'est là-dessus que j'allais rebondir, c'est que ça ressemble presque à un mea culpa d'EA qui avait forcé un peu Visceral Games à l'époque à lorgner vers l'action après le premier, et qui avait fini par killer le studio carrément, par le dissoudre, et qui revient avec le premier qui n'était pas assez action pour eux et qui leur fait hyper proprement. EA qui est en train de pousser des jeux solo. Moi, tu m'aurais dit ça l'année dernière, il y a deux ans, j'aurais été là, oui, non mais d'accord, mais jamais. Enfin, juste, il y a FIFA en fait, donc les gars, calmez-vous. Et en fait, non, entre Dragon Age qui va finir par arriver, puisqu'il visiblement il est plus trop loin de la sortie, Mass Effect qui est en cours. Star Wars Jedi qui est aussi solo, celui-là, il n'y a pas de microtransaction à part là la petite édition de luxe qui rajoute quelques skins et c'est tout. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe
qu'est-ce que vous avez fait à notre IE?
Avez-vous fait d'Electronic Arts?
J'avoue que l'absence, il n'y a pas du tout de microtransaction dans le jeu.
Non, il n'y a rien du tout. Le seul truc que tu peux avoir, c'est rajouter, je crois, c'est 10 ou 15 balles pour avoir l'édition de luxe avec, avec quelques skins d'armure.
Des armures, qui sont super belles d'ailleurs. Ouais. J'étais surpris, elles sont vachement belles les armures.
En plus, ça ne sert à rien, elles ne jouent rien du tout sur le. C'est t'améliores ton armure de base, c'est vraiment juste un skin, quoi.
C'est marrant parce que. C'est vraiment sur ce point, tu fais bien de le noter, tu m'aurais dit, EA a rajouté des microtransactions pour, tu vois, ils ont rajouté une sorte de monnaie en jeu en plus pour pouvoir acheter des upgrades d'armes et tu peux l'acheter avec de l'argent réel. C'est exactement le genre de... D'ailleurs, il n'y avait pas ça dans un Resident Evil Remake ? Je ne sais plus. Mais c'est pile le genre de truc que tu peux ajouter dans un jeu solo et ça passe. Et c'est pile le genre de choses que EA aurait pu faire selon mon a priori clairement injustifié sur EA. Mais bon, donc, peut-être un tournant pour la manière dont EA considère les jeux vidéo. T'as joué à d'autres choses, Malo ? Ou est-ce qu'on...
Oui, j'ai joué à Forspoken.
Ah, alors, on en parlait la semaine dernière. Ce jeu qui divise, que certains aiment bien et d'autres pas vraiment. J'avais l'impression que c'était... Bon, je te laisse parler plutôt, ça sera mieux.
J'ai... voilà, c'est... Je suis ressorti en me disant ouais, c'est ok. Voilà, c'est en me disant bon bah c'est pas la cata parce que jusqu'à ce que je me retrouve avec le code entre les mains avec un test à faire, c'est un jeu qui m'intéressait absolument pas, ça me parlait pas du tout. Finalement, j'ai pas passé un moment désagréable parce que ça bouge bien. Mais il y a plein de trucs qui sont ultra pénibles. La ville centrale n'est pas intéressante. Les quêtes secondaires où il faut poursuivre un chat pour trouver un objet nul, au secours. Le monde ouvert qui est très très grand, mais en fait il y a quatre objectifs différents qui sont reproduits d'un bout à l'autre. Alors on prend plaisir à aller d'un objectif à l'autre, mais c'est pas très intéressant. Donc en fait c'est toujours un jeu du oui mais, et qui fait que moi j'en suis ressorti en me disant ok, j'ai pas passé 25 mauvaises heures, mais par contre jamais j'y rejoue, quoi.
D'accord.
J'ai pas envie d'y revenir. Le personnage est plutôt cool, mais les autres sont pas intéressants. On voit venir un peu le scénario, il est plutôt bien rythmé, mais on le voit venir à un kilomètre. C'est plein de petits trucs comme ça, où à chaque fois qu'il y a un truc intéressant, il y a un truc qui contrebalance tout le temps, qui fait que c'est un jeu très honnête. Il sera, dans un mois, on aura oublié qu'il est sorti.
C'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière. Je suis sûr qu'il y a des gens qui rentreront dans le truc et qui l'apprécieront, mais d'une manière générale, c'est un jeu qui est difficile à recommander. À moins qu'on soit attiré par l'idée, quoi. Le gameplay est fun quand même.
Oui, il est plutôt fun. Ouais, ça bouge bien. C'est un peu aussi un exemple, c'est que les combats sont assez agréables. Il y a une gâchette pour les sorts de défense soutien, une gâchette pour les sorts de trucs offensifs. On les débloque au fur et à mesure, divers types. On peut naviguer entre. Ça bouge bien, mais par contre, ça devient assez rapidement illisible quand il y a beaucoup d'effets. Alors quand on commence à maîtriser, on apprend en fait à lire ce qu'on voit à l'écran, et c'est plus trop un problème. Mais il a un peu du mal à rester lisible en toutes circonstances, et des fois c'est un peu piégeux. Mais dans l'ensemble, c'est par le combat. En fait, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait comme l'aurait fait un Devil May Cry, c'est de se dire, ok, le monde ouvert, on s'en fout, en fait, parce que notre gameplay de combat fonctionne bien, on va faire des grandes arènes ou des zones assez larges où il y a plein de choses à faire, mais je ne sais pas pourquoi ils se sont embêtés avec un monde ouvert, si ce n'est pour nous proposer trois panoramas et se dire, notre gameplay parcours, il fonctionne, quoi.
C'est pour le gameplay parcours, c'est quand même, tu vois, une composante importante...
Ouais, mais est-ce que Assassin's Creed, avant de passer à Origins, ils avaient besoin d'un gigantesque monde ouvert pour faire du parcours intéressant ?
Non, c'est sûr. Mais là, le principe du parcours de Forspoken, c'est justement que tu traverses un gigantesque monde ouvert. Tu vois, il est prévu pour ça. Mais bon, écoute, effectivement, je pense que le jeu ne restera pas dans les listes de GOTY cette année. Ce qui n'est pas
forcément mal.
Tous les jeux n'ont pas besoin d'être des GOTY. Mais par contre, ceci dit, c'était la question que je voulais vous poser. J'ai l'impression que Dead Space, c'est presque un potentiel GOTY, quoi.
Une année où il va se retrouver en face de Hogwarts Legacy et Zelda, il vaut mieux être solide.
Non, par contre, on verra, mais c'est
en jeu d'action, il pourra avoir un prix.
C'est, ouais, et puis c'est une grosse, pour moi, c'est une vraie surprise, quoi. Je ne l'attendais pas à ce niveau-là, en fait. Moi, par exemple, en termes de remake, j'attends énormément Resident Evil 4 remake, que j'attends toujours plus, parce que Resident Evil 4, c'est Resident Evil 4. mais je suis très content de me mettre en appétit, on va dire, avec Dead Space, pour le coup.
Et je pense que, je présume, hein, c'est vraiment, je pense pas que Resident Evil 4 arrive à un niveau de j'ai compris ce qu'est le jeu et je vous le repropose cette année sans que ce soit choquant en 2023 qu'a réussi à faire Dead Space. Je vois pas comment Resident Evil 4 pourrait être remaké de façon aussi intelligente que l'a fait Motive. Même ce sera très bien, hein, ça j'ai aucun doute là-dessus, parce que c'est un super jeu et que ce qu'ils ont annoncé vouloir faire avec...
Attention, tu vas te faire des ennemis, Malo, là.
Disons que ce que... Enfin, je veux dire, moi j'ai quand même vachement confiance en Capcom, parce qu'ils ont montré avec le 2 et le 3 qu'ils savaient faire des remakes d'excellente facture, surtout avec le 2. Mais là, disons qu'ils s'attaquent à un... Disons que remaker le 2 et le 3, c'était un exercice très, très intéressant, parce que là on changeait complètement de caméra, etc. Là, on va rester sur un truc à la troisième personne, certes. Moi j'ai hyper confiance dans le résultat de RE4 Remake. Après, est-ce qu'ils vont oser apporter des trucs, tu vois, est-ce qu'ils vont rester dans les sentiers battus, est-ce qu'ils vont rester sur les rails du Resident Evil 4, je sais pas.
Moi j'ai très hâte aussi, hein. C'est un jeu que j'attends autant que j'ai attendu Dead Space, et je vais le saigner quand il va sortir, hein. C'est pas le problème.
Bah écoutez, on en reparlera à ce moment-là. Un autre potentiel GOTY, j'ai l'impression, j'ai vu un tweet dithyrambique de JK sur un jeu que je n'attendais pas, c'est Season, A Letter to the Future. C'est quoi ?
Alors, Season, je crois que c'est toi qui disais sur Twitter, ça ressemblait un peu à Indie Games The Game, quoi.
Ouais, c'est ça. tu regardes le trailer, tu dis, mais c'est voilà. Ils ont pris tous les trucs des jeux indés et ils ont coché toutes les cases, quoi.
Bah, je vais pas te mentir, c'est un peu ça, malgré tout. Mais c'est un peu ça, mais fait de manière tellement intéressante et agréable. En fait, c'est vraiment une expérience à la fois très, très, très particulière c'est un jeu qui m'a impressionné. Alors je vais le pitcher parce que c'est beaucoup plus difficile à pitcher que Red Dead Space. On incarne une jeune femme qui c'est un monde imaginaire qui ressemble beaucoup à notre monde à nous, et on incarne une jeune femme qui décide de quitter pour la première fois de sa vie son village natal, et pour découvrir le monde extérieur et documenter le monde extérieur avec son appareil photo, son magnétophone, et prendre plein de notes dans son carnet. Donc en fait le but du jeu c'est littéralement que ça, c'est de parcourir le monde, rencontrer des gens, explorer, prendre des photos et prendre des notes, et essayer de faire une espèce de capture globale du monde que tu es en train de découvrir. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que toi, en tant que joueur, tu es comme cette jeune femme, puisque tu découvres ce monde en même temps qu'elle, donc déjà, ça crée un lien assez, assez chouette. Et évidemment, le petit twist, c'est que tu découvres ce monde à un moment très charnière où, c'est une métaphore sur la fin du monde, tout simplement, Season, puisque, en gros, ils sont à la fin de ce qu'ils appellent une saison dans leur monde. Chaque saison, en fait, marque un très grand changement, et le début d'une saison prochaine, c'est une espèce de reboot et de retour à zéro du monde, avec... tu le comprends très vite, avec la majorité de la population qui va perdre tous ses souvenirs. Et toi, en fait, en tant que ton jeune femme qui possède une sorte de talisman qui te protège de ça, tu vas documenter tout ça pour justement garder une trace de ce monde qui est en train de disparaître. Et en fait, à partir de là, en fait, très rapidement, c'est une sorte de mini... Ouais, c'est très poétique et c'est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que passer la première demi-heure de jeu, t'es dans ton village, etc. Quand tu sors et en fait tu parcours le monde avec ton vélo, et la première fois que tu descends, que tu quittes ton village, que tu descends une grande route et que tu découvres une immense vallée devant toi, t'as vraiment la même sensation que moi la première fois que j'ai découvert Breath of the Wild, et que tu découvres ce monde devant toi qui s'ouvre et tu dis bon, maintenant où est-ce que je vais. Alors évidemment le monde ouvert est beaucoup plus petit, mais par contre en termes de poésie, en termes d'envie de tout découvrir, c'est les mêmes sensations en fait qu'un jeu à la Zelda. Et je précise que ce n'est pas un jeu à la Zelda, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de choses comme ça, c'est vraiment juste explorer, discuter avec des gens, prendre des notes, prendre des photos, etc. Et voilà, et donc évidemment c'est important de pas trop raconter ce qui se passe, mais c'est pas non plus un jeu qui va vous mind blown par des twists incroyables avec un scénario complètement fou, etc. Mais en fait c'est plein de petites histoires que tu vas capter un peu partout, et parfois avec finalement pas avec quelques mots, avec quelques dialogues, avec quelques photos, tu vas reconstituer un univers qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que tu sens que les développeurs, en fait, c'est des Canadiens, des Québécois, ils ont imaginé un lore hyper profond, hyper, hyper puissant, avec des histoires de guerre, avec des histoires de maladies bizarres qui effacent les souvenirs ou qui endorment les gens, ce genre de choses. Et par contre, c'est à toi de le reconstituer. C'est-à-dire qu'ils te mettent rien sous le nez, c'est à toi de vraiment d'aller chercher le truc et de reconstituer tout le puzzle de cet univers qui est vraiment intéressant, avec en plus vraiment une direction artistique qui est super belle, qui est vraiment magnifique. Le jeu a vraiment des fulgurances en termes de paysages régulièrement qui m'ont vraiment bluffé. Voilà. Par contre, après, c'est un jeu très contemplatif, c'est un jeu où il se passe finalement pas grand chose, quoi. Il faut vraiment s'investir dedans. Mais c'est un jeu qui parfois, juste avec une rencontre et quelques phrases d'un personnage que tu vas rencontrer, peut vraiment te. Enfin, moi, c'est un jeu qui m'a vraiment touché, en fait, jusqu'au bout. Le jeu, bah, typiquement, ce genre d'expérience, tu t'attends pas à ce que ce soit très long. Donc, c'est entre 6 et 8 heures de jeu, quoi, en fonction de ton niveau de, parce qu'en vrai tu peux aller très vite et aller plus rapidement à la fin, mais l'intérêt c'est d'explorer tout, etc., de prendre ton temps. Et en fait, c'est marrant parce qu'à la base, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est un jeu que je suis vraiment tombé dessus presque par hasard. C'est Diz, mon Kevin, mon camarade de ZUSD, qui m'a envoyé un message en disant cette journée avec un vélo. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça, puisque Journée, le fameux jeu de Genova Chen, puisque c'est vraiment un jeu de voyage, quoi. C'est vraiment un jeu de voyage avec par contre beaucoup plus de dialogue et quand même une narration qui est beaucoup plus écrite. Ouais, franchement, c'est très très beau. Moi, je le conseille vraiment si vous avez envie d'une expérience à la fois un peu contemplative, un peu relaxante, et un truc un peu. Ouais, c'est très mélancolique, mais en même temps, c'est pas du tout pessimiste, tu vois. Ça parle de la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de nouveau qui va se recréer. Et c'est fait de manière très très intéressante, très subtile. Vraiment, c'est un jeu qui m'a enchanté. qui m'a enchanté vraiment pendant 6-7 heures là, et c'est vraiment, je sais pas si ce sera GOTY, mais en tout cas pareil, enfin c'est indéniablement la surprise de ce début d'année quoi. D'accord. Pour moi quoi.
Season, voilà. A Letter to the Future, et c'est sur PC et PlayStation.
Un truc que je précise, alors moi je me place de mon point de vue très français, hein, c'est que le jeu donc est doublé, hein, avec en plusieurs langues, et le doublage français est fait en québécois, avec des accents du coup québécois. Et donc c'est vrai que c'est, et je trouve que ça donne en tout cas de mon point de vue, une sorte de charme en plus, parce que c'est finalement très rare dans un jeu vidéo d'avoir une VF avec un accent, et d'autant plus un accent québécois. Donc moi je vous conseille honnêtement d'essayer d'y jouer en VF, parce que je trouve que ça rajoute un truc en plus quoi.
Et c'est des Québécois, t'as dit c'est des Québécois.
C'est un studio qui. Je pense que c'est des Québécois pour le coup, c'est Scavenger Studio, et j'imagine que ce sont des Québécois.
Écoute, Season, A Letter to the Future, c'est clairement, j'en ai entendu énormément de bien. Donc si c'était que JK,
ouais, il a très bonne review. Hein.
JK, mais ouais. Oui, tout le monde a l'air de l'apprécier quoi. Ce indie game the game. Super, ben merci à tous les deux. Pour ma part, je suis encore sur Persona et continue à y jouer. La petite s'est réveillée.
Le
5, ouais. En fait, j'ai commencé hier. J'ai recommencé. Pardon ?
Non, vas-y.
J'ai recommencé à y jouer il y a quelques semaines et j'en suis toujours émerveillé. Je l'avais fait au moment de la sortie. Enfin, je l'avais lancé au moment de la sortie et je ne l'avais jamais fini. J'avais fait juste une douzaine d'heures. Et en fait, quand je l'avais repris, j'avais été un petit peu rebuté par l'aspect visual novel, surtout vie sociale. Et j'ai eu envie de réessayer, parce que j'avais aimé le 4 et il est quand même assez magnifique, celui-là. Et donc, à l'occasion de... Enfin, comme il est dans le Game Pass, je me suis relancé dedans, avec le Royal. Et là, je suis arrivé à un moment où je fais beaucoup de social, et je suis assez surpris. Enfin, c'est le moment où j'avais peur, je me demandais est-ce que ça va me rebuter une nouvelle fois, cette partie. Et jusque-là... je suis dans le trip et ça me va. Donc, je vais continuer à avancer petit à petit. Je pense toujours pas que j'irai au bout, mais j'y prends du plaisir. J'aimerais bien au moins voir le deuxième château, enfin, le deuxième palais. Et donc, je continue, mais ça, c'est pas...
Il est dans le tuto. Pass, hein.
Pardon ?
T'es encore dans le tuto.
Oui, voilà, j'ai fini le premier palais. Mais c'est marrant parce que j'ai fini vraiment le premier palais d'une traite, en fait. Et c'est beaucoup moins frustrant que dans la version non Golden. Bon, j'ai peut-être mis un accessoire bonus qui fait un peu trop de dégâts. J'ai mis un Demonica Device tout explosé avec les armes. Mais j'ai regardé, c'est 50% de bonus en plus pour les armes. C'est pas, et je les ai vraiment explosé les ennemis, donc je crois que c'est pas ça qui m'a tout fait battre tout. J'aurais juste pris un tour de plus à chaque combat, ce qui compte, mais quand même. Et du coup, bon, j'y prends du plaisir. Et à côté de ça, j'ai lancé la démo de Theatrhythm. Final Fantasy Theatrhythm sur PlayStation, le Final Bar Line, qui est la version genre ultime, qui est disponible très bientôt. Et j'avais jamais joué à des Theatrhythm, et je me suis dit, bon, jeu de rythme basé sur des musiques de jeux qu'on connaît, ok, mais c'est pas forcément mon truc. Et ben, en fait, elle est disponible, il est dispo le jeu sur PlayStation et Switch. Je ne sais pas s'il est dispo sur PC, mais les démos, en tout cas, sont sur PlayStation et Switch. Et je dois dire que c'est PC, PlayStation et Switch. Et je dois dire que j'ai été immédiatement charmé, parce que c'est un truc hyper... c'est facile, quoi. C'est presque du fast-food. Tu as les musiques que tu connais. J'ai lancé des musiques de... On a le choix entre différents titres. Évidemment, j'ai lancé Final Fantasy VII parce que c'est celui qui est le plus frais dans ma mémoire. Et rien que le fait d'appuyer sur des boutons en rythme avec la musique que tu connais, c'est plaisant. C'est pleasurable, comme on dit en anglais. Ça te donne du plaisir. Et du coup, bon, j'avais hâte que les tutoriels se terminent, parce que comme toujours dans les jeux japonais, c'est genre « Alors, maintenant, on va faire ça. Vous êtes d'accord ? Oui, ok. Donc, on va le faire. Hein, vous êtes sûr ? Oui, ok. Et maintenant, donc, pour faire ça, tu vas faire tel et tel et tel truc. J'ai compris. Donc, on vient de t'expliquer que tu as fait. Bon, ok, c'est bon. Mais une fois qu'on est dans le jeu, c'est vraiment super sympa. Et moi, je suis en mode super simple, parce que je ne suis pas du tout un adepte des jeux de rythme, donc je me ferais exploser. » Mais ça fonctionne, quoi. Et je comprends tout à fait, surtout si on est méga fan de tous les Final Fantasy, qu'on connaît les musiques par cœur, je comprends tout à fait que ça soit un jeu qu'on attend avec une immense impatience. Et sur la démo, j'ai pris beaucoup de plaisir. Franchement, si j'avais plus de temps, je crois que j'y passerais plus de temps. Je ne sais pas si j'irais acheter le jeu quand même, mais c'est un moment hyper agréable que j'ai passé. Et bah, la formule, c'est pour ça qu'il y a tellement de jeux de rythme, enfin, qu'il y en a tellement eu et qu'il y en a toujours qui traînent par-ci, par-là, c'est un truc qui fonctionne, quoi. Et moi, clairement, ça a complètement fonctionné avec moi. Je l'ai lancé pas à contre-cœur, je dirais. C'est pas que j'y allais à reculons, mais j'en attendais rien et en fait, je me suis amusé. Donc, Theatrhythm Final Bar Line sur...
Tu m'as donné presque envie de m'y mettre, hein, d'essayer.
Tu sais, download la démo... C'est marrant.
Il y a la démo qui est dispo aussi sur Switch. Il n'est pas sur PC, dommage.
Switch et PS et PlayStation. Et tu as, dans la démo, tu as accès notamment aux morceaux, évidemment, de Final Fantasy VII Remake. Donc, et quand la musique commence, tu sais, c'est, même si c'est des petits bips, tu t'en fous. Si tu la connais, ça te lance le truc tout de suite, quoi. Et on me demande, alors il n'y a pas que Final Fantasy, il y a des DLC avec d'autres titres de Square, mais ce n'est pas inclus dans le jeu de base. Et il y a même...
Il n'y a pas Dragon, Dragon Quest
Je ne crois pas qu'il y ait Dragon Quest, mais il y a d'autres titres. Il y a Octopath Traveler, Nier, enfin plein d'autres trucs comme ça. Je ne crois pas que j'ai vu Dragon Quest, et ça ils le mettraient en avant. Moi j'imagine qu'ils vont faire un spécial Dragon Quest ensuite, parce que tu vois, c'est hyper... hyper populaire, Dragon Quest, donc ils peuvent vendre le titre sur le nom du jeu, enfin de la série. Mais il y a... merde, j'allais dire un autre truc important. T'as une version Deluxe qui a des morceaux qui sont pas dans la version de base, et tu peux pas les acheter en DLC après. Donc, tu vois, c'est quand même... au niveau vicieux, ils sont pas les derniers non plus chez Square Enix. Je suis sûr qu'il y a des morceaux qui sont hyper... demandé et populaire dans cette version de luxe. Mais voilà, donc c'est un jeu qui m'a surpris et qui est plutôt sympatoche, voilà, à tester comme ça. Je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres jeux que vous voulez évoquer ?
Ou est-ce qu'on j'ai lancé Hi-Fi Rush.
Hi-Fi Rush, oui, j'y ai joué un petit peu aussi. Ouais.
C'est le Gotti aussi, hein, celui-là.
Tu as joué aussi, bah, tout le monde, enfin ce Shadow Drop incroyable. C'est pile le jeu qu'il faut Shadow Dropper et que, dont tout le monde parle pendant une ou deux semaines.
Ça a été un coup de com' très très mal, hein, parce que, et surtout que ça, apparemment, c'est un vrai super jeu. Moi, j'ai pas encore eu le temps de le lancer, ça a l'air super chouette. Ouais.
Bah alors justement, t'en as pensé quoi, Malo ?
J'ai fait les deux premiers boss. Pour l'instant, alors mis à part un game design, enfin un level design qui est un peu classique, je trouve que la DA fonctionne hyper bien. Je trouve ça très drôle. Alors ça, c'est vraiment propre à chacun, mais moi je trouve ça vraiment très rigolo. J'ai l'impression que toutes les deux phrases, les développeurs ont envoyé des grosses cuds vers les éditeurs et tout, parce qu'il y a un morceau entier de musique qui s'appelle « On nous a dit de travailler en équipe » et qui est juste avant un gros combat. et plein de trucs comme ça et des descriptions avec une phrase à la fin. Ah mais vous avez vraiment lu jusque là. Et il y a des références à d'autres jeux de Tango Gameworks. Le côté rythmique est pas frustrant du tout. Moi je suis très très mauvais à ça. J'ai pas de rythme du tout. Je suis très mauvais à ce genre de jeu. Et le jeu en fait, il est conçu de façon à ce que les coups que tu mets sont toujours en rythme. Par contre, si t'es parfaitement dans le tempo, tu feras beaucoup plus de dégâts. Donc c'est à dire que même si t'es nul, tu peux arriver à finir le combat. C'est assez gratifiant, mais par contre, si t'es bon, ça devient vraiment jouissif, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. C'est un jeu qui trouve l'équilibre pour les jeux de rythme, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Theatrhythm, qui trouve l'équilibre entre il faut qu'on soit en rythme, mais il faut aussi que ça soit fun. Et il fonctionne très très bien à ce niveau, Hi-Fi Rush. Donc, gratuit sur Game Pass ou payant pour pas Game Pass sur Xbox et PC. Et on va passer maintenant à notre petite partie, le reste de l'actu. Avec des annulations, des fermetures. Electronic Arts, on parlait de, tout à l'heure de jeux qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Bah, Apex Legends sur mobile et Battlefield, qui était. Enfin, Apex Legends, il est sorti il y a quoi ? 6 mois, en fait ? Et il est déjà annulé, enfin, il est déjà fermé. J'ose même pas imaginer le peu de succès qu'ils ont eu avec Apex Legends Mobile pour, pour en fermer les portes, là, dans quelques mois, enfin, pour décider d'en fermer les portes. Déjà, je suis vraiment surpris. Ils étaient aussi en train de développer un Battlefield Mobile, bah, ils ont arrêté. Et ils ont aussi arrêté le développement d'un jeu solo, Titanfall, qui est dans l'univers de Apex Legends. Mais depuis le temps qu'on espère une suite à Titanfall 2, qui était vraiment
ça, franchement, c'est dommage. Ça, je suis dégoûté. Enfin, déjà, limite, ils n'auraient pas dû le dire parce qu'on ne connaissait pas l'existence de ce truc. Et alors que oui, et puis en plus, moi, je comprends pas parce que, enfin, tu vois, il y a eu des gros succès dans les jeux solo côté EA, là, notamment Jedi Fallen Order à l'époque. Ils étaient très contents du fait que la Dead Space, alors je sais pas si c'est un succès, mais donc je comprends pas je comprends pas leur politique, là. Ils sont en train à nouveau d'annuler des jeux solo.
Il y a genre 2 ans, je t'aurais dit, c'est pas un jeu multi à microtransactions, donc forcément, ils l'annulent. Mais oui, aujourd'hui, comme ils ont compris que des jeux solo pouvaient ramener de l'argent, ils devaient juste être vraiment pas bons, quoi. Ils ne devaient pas prendre une bonne direction, j'imagine.
C'est étonnant, de la part de Respawn, surtout après un Titanfall 2 qui était chouette. Bizarre.
Bah, clairement étrange, mais... qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est un EA dont on vantait les qualités de respect des jeux, tu vois. S'il l'annule, c'est que.
Ouais.
Je pense.
On va apprendre à en parler, mais ça, c'est tous les jours, en fait, dans l'industrie. Là, on en peut.
Ça sort parce qu'il
y a eu du teasing par quelques petits messages d'un éventuel Titanfall 3 et que c'est un jeu qui est considéré comme un échec injuste. Le premier et le deuxième qui s'est retrouvé en face de Battlefield et de Call of à chaque fois, alors que c'est deux super campagnes de FPS. Mais des jeux qui sont lancés, dont on n'entend jamais parler, qui ne sont pas annoncés, puis qui disparaissent, il y en a. Enfin, pour un jeu sorti, il y en a 9 qui disparaissent en plein milieu de leur développement. Donc, c'est pas si étonnant que ça. Là, le plus triste, finalement, c'est que les 50 développeurs concernés. Il y en a qui vont tenter d'être recasés dans d'autres studios, mais s'ils ont leur trouve pas de place, ils vont être licenciés. Donc ça c'est peut-être un peu un mauvais signe par rapport aux ambitions FPS de EA, parce que bon, ils sortent déjà de Battlefield 2042, ça s'est pas super bien passé. Ou alors est-ce qu'ils considèrent simplement que Apex suffit à lui-même, que l'investissement Titanfall vaut pas le coup par rapport à ce que nécessite en termes de moyens la création d'une campagne, et qu'ils vont se concentrer sur le contenu, quitte à prendre tout le contenu qu'ils avaient pensé pour ce Titanfall Legends et l'intégrer par des événements solo dans Apex, hein. C'est pas impossible non plus, hein.
Possible événements solo, je suis pas convaincu, mais peut-être, qui sait. Ou simplement le reconvertir dans des éléments de Apex. Enfin bon, et à vrai dire, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura jamais de nouveau jeu solo Titanfall. Hein. C'est juste que ce projet-là a été annulé. À propos de projet annulé, on a Rumbleverse qui lui aussi se fait annuler après 6 mois. C'était un Battle Royale vraiment original, genre de catch. C'était en fait un Battle Royale en jeu de combat. Et clairement, c'est difficile de se faire une place, quoi. Il y en a tellement. On s'est demandé à de nombreuses reprises... est-ce qu'il y a encore de la place dans les Battle Royale ? Et là, je crois que depuis quelques années, la réponse est enfin non, il n'y a plus de place, ça y est, c'est fini. Il y a Apex, Warzone et Fortnite, bien sûr, ils couvrent tout le marché, quoi.
Il n'y a pas de licence forte attachée.
Ça joue aussi, évidemment. S'il y a un Battle Royale, je ne sais pas moi, Naruto, tiens, ça pourrait peut-être le faire. Quoi d'autre ? Est-ce que vous êtes prêts pour une série télé Tomb Raider ? Eh bien, écoutez, que vous soyez prêts ou pas, il va y en avoir une chez Amazon.
Vu le nom qui circule, je suis plutôt chaud.
Vu le quoi ? Oui, tout à fait.
Vu le nom de la personne qui est censée s'en occuper, si la rumeur est fondée, ça m'intéresse.
Alors, c'est Phoebe Waller-Bridge qui était scénariste et actrice de Fleabag. Je ne vais pas vous faire un topo sur Fleabag, mais c'était une série qui était vraiment bien et surtout intéressante. Et c'était un truc d'auteur, quoi. Ce n'était pas une série genre une sitcom débile. C'était vraiment une série d'auteur. Et quelqu'un comme ça qui s'occuperait de Lara Croft, je pense que ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant parce que le personnage il a une histoire et je pense qu'il peut être présenté de manière intéressante. Et puis une série Lara Croft, moi je pense qu'il y a vraiment... J.K. t'avais l'air de dire moi je pense qu'au contraire ça pourrait être quelque chose de bien, quoi.
C'est une très mauvaise imitation de moi que tu fais. Pourquoi pas. Après, je me méfie quand même parce que oui, alors, effectivement, la caution Phoebe Waller-Bridge, c'est pourquoi pas. Après, Fleabag, j'ai pas regardé, donc je peux pas vraiment. Après, moi, j'ai vu la version française de Fleabag, sans savoir que c'était ça d'ailleurs, qui était avec Amy Cotin, c'était pas mal. Mais par contre, c'est quand même assez éloigné de. Après, pourquoi pas. Hein, mais je suis curieux de voir ce qu'elle peut faire justement sur un truc plus pop avec de l'aventure et tout. Voilà, je suis quand même. On va dire que j'ai un léger sourcil levé, mais voilà, je suis c'est un peu en recul. J'attends. J'attends de voir un premier trailer. Tu vois déjà, ne serait-ce pour voir un peu la tonalité du truc, quoi.
T'es pas comme Malo qui se lève sur sa chaise en disant oh, Phoebe ou alors.
Ah bah là, je suis debout. Là,
ouais, c'est ça.
T'es chaud, tu dis.
Ouais, je suis debout. Là, je suis sur ma chaise. Je danse. Non mais on verra déjà qu'on a pu ils ont annulé le film le deuxième film avec Alicia Vikander donc on va voir ce que ça pourrait donner et puis on va attendre le jeu aussi.
Oui. Et alors justement le jeu que tu attendais, j'ai vu que tu t'en enthousiasmais sur Twitter, c'est Tomb Raider Reloaded.
Ah ouais.
Alors soon.
Ouais, alors bon ça ça c'est autre chose hein. c'est un reste d'un projet qui a été lancé par Square Enix il y a déjà un moment, parce que je me souviens avoir fait une news là-dessus il y a bien longtemps. Oui, bon, voilà.
Alors, j'ai très alors peur. C'est quoi
c'est un jeu mobile dont on ne sait pas encore grand-chose, si ce n'est que ça prend un peu la forme d'un roguelite avec un style un peu cartoon. C'est vu du dessus, c'est pas bon. J'ai très peur parce que c'est un héritage de la direction Square Enix occidentale, donc héritière de tout ce qui est Marvel's Avengers, de la gestion de Crystal Dynamics et de toutes ces choses-là, donc j'ai très très peur. Globalement, j'ai un peu peur de tout ce que fait Square Enix en dehors de Final Fantasy. Surtout quand ils font des discours pour dire que leurs objectifs, c'est l'NFT, c'est pas tellement les jeux. Donc, j'ai un peu peur.
Ouais.
Par contre, je suis beaucoup plus chaud pour le DLC Power Wash, où on peut nettoyer le manoir de Lara Croft.
On en parlait la semaine dernière. Ouais.
Parce que c'est le jeu de la satisfaction.
On est d'accord. Un peu, je trouve qu'il demande un peu trop de travail quand même, Power Wash, pour être satisfaisant. Mais tu vois, faut vraiment aller chercher les derniers pourcentages de morceaux de traces. Mais Tomb Raider Reloaded arrive le 14 février. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Jedi Survivor a été décalé au 28 avril. Et là, vraiment, on se dit qu'il y a des gens... Enfin, encore le 28 avril, t'es juste dans la période où ça va, mais je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est cette période-là. Je ne sais pas comment on l'appelle, alors je disais sur Twitter, c'est le mai-juin-pocalypse, parce que entre le 28 avril et le 22 juin, on a maintenant Dead Island 2, ça c'est un jeu pour J.K., Jedi Survivor, Redfall, Tears of the Kingdom, Zelda, Suicide Squad, Street Fighter 6, Diablo 4 et Final Fantasy 16.
La violence, quoi.
Mais c'est fou, quoi.
La violence. Ouais, non, c'est n'importe quoi.
C'est vraiment n'importe quoi.
C'est une période de deux mois, quoi. Deux mois et demi, mais quand même, c'est quand même... Et surtout que c'est pas des jeux qui vont prendre 10 heures à finir, la plupart, donc
C'est 8 jeux, donc en moyenne, il y a des concentrations, mais en moyenne, c'est un par semaine. Et évidemment, c'est marrant, parce que j'ai tweeté ça, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, mais sur cette liste, il n'y en a que deux qui m'intéressent. Oui. » D'accord, mais c'est pas l'idée n'est pas que tous les jeux vont être forcément pour tout le monde.
C'est sûr.
Il y a beaucoup de gros jeux
Après, c'est vrai que c'est des jeux pour le coup très différents. C'est-à-dire que, après, je sais pas, hein, est-ce que celui ou celle qui va acheter Diablo 4 va se jeter sur, va se jeter sur FF16, je suis pas sûr, tu vois. Mais quand même.
Bah tiens, il y en a combien qui vous intéressent dans cette liste du coup ?
En vrai, moi, quasiment tous.
Ouais, pareil. Ouais, à part FF.
Même FF m'intéresse, tu vois, moi, donc cette année, quoi.
Dead Island, j'attends de voir. Redfall, c'est Day One.
Ah oui ?
Ah bah, c'est Arkane, donc Arkane par principe, c'est
Arkane, c'est Day
One. Moi, Redfall, effectivement, Arkane, donc Day One, mais ce que je vois de Redfall pour le moment ne me branche vraiment pas du tout. Donc, j'espère me tromper, que le jeu final sera mieux que ce que je ressens, là, pour le moment, mais je suis quand même assez... je suis pas hyper emballé par Redfall pour le moment.
Moi, il y en a... Moi, je dirais, ouais... Quasiment tous, pas tout à fait. Enfin, Dead Island, ça peut être marrant parce que ça va être du rétro gaming. C'est un jeu dont le design a été lancé en...
Oula, attention, parce que tu vas encore te faire engueuler sur Twitter. Tu vas encore te faire engueuler sur Twitter, toi.
Non, mais tu vois, c'est un peu comme Dying Light 2. Tu sortais quand même le design des années 2010, quoi. Je serais pas surpris que Dead Island 2, dont le développement a commencé il y a à peu près 40 ans...
Clairement, moi, je suis... Dead Island 2, honnêtement, j'en attends rien. Je suis pas du tout...
Mais bon, donc il y a ça...
Voilà.
Jedi Survivor, pourquoi pas, Redfall, pourquoi pas, et puis après Tears of the Kingdom, oui, Suicide Squad, oui, moi je suis très curieux, puis Street Fighter 6, mais je vais jeter dessus, Diablo 4, oui, Final Fantasy 16, oui, enfin, il y en a bien 5-6 sur lesquels je pense passer du temps, quoi.
Putain, par contre, Street Fighter 6 OZEF de mon côté, totalement, donc
Jika,
ça en fait déjà un mois.
On va changer ça, on va arranger ça, on va faire des sessions d'initiation et douces sur Street Fighter, et on verra si on pourra te Street Fighteriser. Ça sera pas Street Patrick, ça sera Street Jika.
Street Patrick.
Mon aventure Street Fighterienne. Quoi d'autre ? Allez, on va finir vite. Vous pouvez jouer en duel sur Marvel Snap. Donc, si vous attendiez de pouvoir exploser vos amis avec des cartes en partie de 3 minutes sur mobile, c'est possible. Il y a eu un trailer pour Destiny 2 avec des armes qui ont été présentées. Mais moi, je suis là aussi. Enfin, on parle de mai-juin, mais là, on est dans le mois de Destiny 2. Vous vous rendez compte que là, dans le mois où on vit, il va y avoir la nouvelle extension de Destiny 2. Vous êtes complètement surexcité, ouais. Je le sens.
J'ai l'impression que ça fait 10 ans que tous les mois, il y a un truc Destiny 2.
et moi, je suis content parce qu'au prochain podcast, donc normalement début mars, tu en auras déjà parlé, donc je n'aurai pas à subir ça. Donc voilà, je suis tranquille.
Et tu vois, là où je comprends quand même les limites de mon fanboyisme, c'est que autant je me dis, on pourrait tenter de Street Fighteriser Jika, autant sur Destiny, je comprends bien que ce n'est pas forcément la peine. Tu sais quoi,
moi, à la base, c'est du FPS, hein, ça pourrait me coûter Destiny. Mais là, juste écoute, que j'ai juste la flemme, quoi, tu vois.
C'est ça le problème. Et il y aura une nouvelle expérience solo. Peut-être que je ferai un épisode spécial pour expliquer aux gens comment débuter sur Destiny. Bon, on verra. Bref, quoi d'autre ? The Crew. Alors, The Crew, je comprends pas. Ils continuent à faire des suites. Clairement, ça doit fonctionner, hein, parce qu'ils continuent à faire des nouveaux The Crew. Et bien là, c'est The Crew Motorfest. Qui devrait arriver, qui se passe à Hawaï, qui devrait arriver en 2023, on ne sait pas quand. Donc, si vous aimez les jeux de course, bah, The Crew est là pour vous.
Bah, ça fait au moins un Ubisoft qui va sortir cette année, ça c'est déjà bien.
Bah, y a un Assassin's Creed, hein, normalement, qui arrive aussi.
Oui, non, mais ok, oui, mais on ne sait jamais. Hein.
Écoute,
on ne sait jamais ce qui va se passer.
Et puis, j'ai vu, alors vous n'aurez pas la vidéo, mais vous allez imaginer mon visage. J'ai vu une news, oh, il y a un jeu Avatar The Last Airbender. Et là, je fais, oh, et puis ça continue, et c'est un RPG gacha sur mobile. Et là, je fais, oh.
Ouais, c'est vite remonté, c'est vite descendu. C'est vite monté, c'est vite descendu. C'est ça.
Et puis, en conclusion, la nouvelle performance de Elden Ring de Miss Mika. Vous savez, c'est celle qui avait fini Elden Ring, qui avait battu des boss de Elden Ring avec sur deux appareils en même temps, un sur PC et un sur console, un à la manette et un sur un tapis de danse. Et ben là, elle est en train de faire un run avec une guitare. Et vous vous dites, ouais, enfin, avec une guitare, on a déjà vu ça. Tu prends une manette Guitar Hero et puis tu as
oui, voilà, ouais.
Machin. Ouais. Non, c'est pas ça qu'elle fait. Elle a une vraie guitare et en fonction des accords qu'elle fait, ça indique au personnage d'attaquer, d'avancer, de reculer, de prendre une potion, etc. Donc elle joue. Alors elle joue pas, mais elle fait des accords à la guitare. C'est assez incroyable et elle a battu enfin il y a un boss là qu'elle a battu. C'est l'inventivité est assez folle et
c'est ouf. Je suis en train de regarder là.
C'est drôle hein.
Génial. J'arrive pas à finir le jeu avec mes 10 doigts. Et...
Non, mais c'est tombé.
C'est ça, c'est un petit peu la spécialiste de ce genre de truc. Donc.
Trop fort. Vraiment
voilà,
trop fort.
Miss Mika. Je pense qu'elle a des origines finlandaises. Elle dit qu'elle est suédoise, mais je me demande si elle a pas des origines finlandaises, parce que Mika, bon, ouais. Et voilà, c'était la dernière news un petit peu légère pour finir l'émission. Je vous remercie très chaleureusement tous les deux d'avoir été là en ma compagnie, d'avoir égayé notre émission de vos blagues volées à Antistar d'une qualité absolument folle. Et j'aimerais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver. Alors, Jika, tu nous disais ZQSD, tu peux en remettre
oui,
une couche.
Voilà. J'en rejoins. Bon, bah voilà. Donc, je rappelle le live mercredi, samedi, parce que je vais jamais y arriver. Samedi 4 février à 19h. Et puis, en attendant, on a publié une série de plein de petits podcasts courts où chacun raconte ses attentes 2023, justement. Les jeux qu'on attend 2023. Donc, il y a un podcast avec Sylvain, un podcast avec Kevin, un podcast avec Corentin, etc., etc. Et donc voilà, ça permet d'avoir un petit peu ZQSD en attendant ce gros morceau samedi prochain.
Magnifique. Malo, où es-tu sur
Oui. Ouf, alors là je commence à cause de JK ou grâce à JK, c'est selon, je rajoute des destinations, donc JV, Total JV, les légendes du JV, Clubic, Actu Gaming, qu'est-ce que j'ai d'autre, Twitch de temps en temps et Twitter.
Et jeuxvideo.com quand même.
Oui, mais je vais commencer par ça je crois.
Ah oui, pardon.
Exactement.
Ou alors j'ai oublié, c'est criminel, donc oui, j'y vais aussi.
Bon, t'as dit j'y vais, donc j'y
oui.
vais.
Oui, je me suis fait au rebranding.
Exactement.
Je suis désolé.
Il est trop âgé, le cerveau marche pas assez vite pour que j'y vais. C'est quoi, ouais. De quoi tu parles? Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout sur tous les réseaux sociaux, y compris Mastodon. J'aimerais aussi vous encourager à aller écouter le prochain Super Laser Punch, qui est un podcast où on parle de trucs généralement Marvel, mais de séries et de films, de pop culture, on va dire. Et en l'occurrence, on va couvrir les trois premiers épisodes de la série The Last of Us avec mon ami Johan. Et on le fait demain matin, donc l'épisode sera disponible assez vite quand vous aurez écouté ce rendez-vous-jeu. Et on aura évidemment beaucoup de choses à dire. Donc The Last of Us, c'est dans Super Laser Punch. Et puis tout le reste, c'est sur notepatrick.com ou même dans les liens dans les notes de l'émission, y compris patreon.com/rdvjeux. Vous le savez, pour soutenir l'émission, patreon.com/rdvjeux, c'est là-bas que vous... devez aller si vous souhaitez participer à cette formidable aventure et soutenir des créateurs tels que, au hasard, moi, par exemple. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.